Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club vous propose une série d'entretiens avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 5, Habiter le monde autrement avec Philippe Descola, anthropologue. La nature, ça n'existe pas. L'anthropologue martèle ce message depuis des années. C'est un penseur cardinal de l'écologie. À 25 ans, une expérience incroyable le transforme radicalement. Pendant 3 ans, il partage la vie des Achouars dans l'Amazonie équatorienne. Un peuple qui ne sépare pas la nature de la culture. Dès lors, l'anthropologue dessine la voie d'une nouvelle relation entre les humains et le monde. D'autres formes politiques, d'autres avenirs sont possibles pour échapper à la voracité du capitalisme. Philippe Descola nous invite à vivre en curieux du monde, à habiter notre monde autrement. L'anthropologue de la nature Philippe Descola dialogue avec la journaliste Manuela Salvi.
Bienvenue au club, Philippe Descola.
Merci.
Le club des curieux du monde et du monde des idées. Vous l'êtes, curieux?
Un anthropologue, par définition, c'est quelqu'un de curieux. Sinon, il vaut mieux changer de métier.
Alors, être curieux, c'est se frotter aux autres, aux vivants, aux choses, et se prendre aussi le risque de changer, de se métamorphoser, de se transformer, de se laisser imprégner par ce qu'on observe, parce que vous avez observé.
Je crois que tous les anthropologues font cette expérience et que c'est même peut-être la base de la vocation. Nous sommes des badauds professionnels, mais qui sommes transformés par ce que nous observons, puisque partager la vie, les institutions, quelquefois les valeurs d'une société très différente de celle dans laquelle on a été élevé, et où l'on réside pendant plusieurs années, ne peut qu'avoir des conséquences sur la façon dont soi-même on voit le monde. On finit par regarder le monde moins avec les yeux qui ont été façonnés par notre éducation que par les yeux qui ont été façonnés par une éducation nouvelle.
Donc c'est une chance que d'être anthropologue.
C'est une vocation, bien sûr. C'est plus qu'une chance. C'est une chance et on les saisit, la chance. Donc ça ne vient pas par hasard. Je pense que c'est ce que vous évoquez est la base de la vocation de l'ethnologue. C'est pour ça qu'on choisit ce métier.
Et c'est forcément être curieux des autres, de l'autre, de l'altérité. Vous l'êtes, anthropologue Philippe Descola, professeur émérite au Collège de France. De cette curiosité, vous l'avez dit, vous en avez fait un métier, un badaud professionnel. C'est joli comme expression.
Oui, je pense que ça tient peut-être aussi à des dispositions propres de caractère qui sont assez souvent celles des ethnologues, ce que je connais en tout cas, qui est d'une curiosité un peu distante au fond. On se sent au départ pas complètement à sa place dans le monde.
Vous sentiez inadapté?
Oui, plus ou moins inadapté, en tout cas avec une sorte de curiosité distante qui faisait que si on est véritablement adapté au monde, on s'y engage et on essaye de, au fond, de le façonner à sa manière. Il faut un talent d'observateur pour devenir ethnologue, c'est-à-dire, au fond, trouver la bonne distance entre ce que l'on regarde et puis l'engagement que l'on met dans les liens que l'on tisse progressivement avec les gens qui vous accueillent.
Et ce talent, vous l'avez exercé tout au long de votre parcours professionnel. Comme anthropologue, vous avez exploré précisément la diversité des usages du monde. Un badaud, un curieux qui a vécu en Amazonie, hein, chez les Achouars en Amazonie équatorienne, une incroyable expérience. Vous aviez quel âge ?
Je suis parti en Amazonie, j'avais 25 ans.
Très jeune donc.
Oui, Mais la plupart des anthropologues commencent leur expérience de terrain à cet âge-là, quelquefois même un peu plus tôt. Moi, j'avais d'abord à faire mes études de philosophie et à les conclure. J'ai même enseigné la philosophie pendant un an dans le secondaire, avant d'échapper à une vie entière de professeur de philosophie en partant en Amazonie. Oui.
Alors, c'était dans les années 70, vous avez passé 3 ans dans cette Amazonie équatorienne. Vous y retournez encore aujourd'hui ?
Et j'y suis retourné il y a 3 ans, oui.
Alors, à 25 ans, qu'est-ce qui vous a attiré, Philippe Descola, en Amazonie ? Pourquoi l'Amazonie ?
Alors, l'Amazonie, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'était que j'étais intéressé par la manière dont une société socialisait son environnement, ça, ou la nature, comme je le disais encore à l'époque, son milieu de vie. Et pour cela, j'ai fait ce que font les anthropologues qui s'intéressent à ces questions. J'ai fait un inventaire complet de leur monde naturel, c'est-à-dire des plantes et des animaux qu'ils connaissaient. J'ai étudié les systèmes de classification, j'ai étudié leur façon de cultiver les jardins, les techniques de pêche, les techniques de chasse, la productivité aussi de ces techniques, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps, et heureusement, parce que ça permettait d'occuper le temps en même temps que nous apprenions leur langue. Et ça n'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ce qu'ils disaient que je me suis rendu compte que leur monde était un monde d'interaction permanente avec des non-humains conçus comme des personnes.
Avec un esprit, une intériorité, voilà. Comme des partenaires, en fait, des alliés.
Des partenaires sociaux. Alors, certains étaient des alliés, d'autres des parents.
Ou des ennemis.
Des ennemis aussi. On se dispute avec des partenaires aussi. Hein. Donc, ce n'est pas une sacralisation telle qu'on peut se la représenter à partir de la tradition européenne, avec les amadriades ou les sources auprès desquels on vient déposer des offrandes, des choses comme ça. Non, en fait, chaque individu non humain, chaque plante, sauvage ou cultivée, chaque animal est une personne avec qui on peut, dans certaines circonstances, communiquer.
Et comment ils communiquent justement avec les plantes, les animaux ? Parce que c'est surprenant pour nous, Européens, et encore plus dans les années 70. Aujourd'hui, on commence à étudier l'intériorité des animaux. Ils ont des émotions, ils ont des intelligences, pas comme la nôtre, mais des intelligences. À l'époque, comment vous avez perçu ça, Philippe Descola ?
Alors, ils communiquent de deux manières. D'une part, c'est très important, par les rêves. Au cours desquels les non-humains, mais aussi les humains, viennent les visiter, ou les morts quelquefois, pour leur transmettre des messages qui sont importants, parce que c'est sous cette forme-là que l'on peut commencer à prévoir un peu ce qui peut éventuellement se passer dans le futur. Parce que les non-humains, les plantes et les animaux, se donnent à voir dans les rêves comme des humains. Et ils se présentent...
Sous une forme humaine.
Sous une forme humaine. Et ils parlent la tchoua, en fait. Et donc ça permet des échanges qui ont des répercussions sur la vie quotidienne. C'est la première fois que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. C'est une femme qui me racontait un rêve d'un plant de manioc qui était venu se plaindre à elle sous la forme d'une jeune fille qui lui disait qu'elle était en train d'être empoisonnée. Et en fait, elle se plaignait à sa maîtresse, c'est la maîtresse des jardins, à la femme qui cultivait ce jardin, de l'avoir plantée trop près d'une plante qui sert à asphyxier les poissons. Et donc, ce plant de manioc s'adressait à cette femme comme à une sorte de mère de substitution. Et cette femme, avait compris le problème et a déplacé les plants de manioc qui étaient plantés trop proches des plantes servant à asphyxier les poissons.
Mais cette découverte-là, cette compréhension-là, qu'est-ce que ça a transformé en vous ? C'est évidemment une surprise. À défaut de choc, c'est en tout cas une surprise, parce qu'on est là dans la complète altérité.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que je savais déjà plus ou moins ces choses-là.
C'est autre chose que de les expérimenter.
Voilà, c'est exactement la différence. Vous avez mis le doigt dessus. Au fond, la plupart des auteurs, des grands anthropologues de la fin du 19e et du début du 20e siècle mettent l'accent sur ce genre de phénomène. C'est le cas en particulier de James Fraser, c'est le cas d'Edward Tyler au Royaume-Uni, c'est le cas en France de Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim portent essentiellement sur des choses de ce type-là. Mais j'avais lu ces choses-là, mais j'avais lu ça comme si c'était des traités de philosophie, au fond. Et j'avais beaucoup de mal à me rendre compte que ça avait une incidence dans la vie quotidienne. Et en entendant une femme me raconter ses rêves, je me suis rendu compte que ça, c'était pas simplement un codage philosophique de la réalité, mais c'était une façon pour elle d'expérimenter le monde et l'altérité, au fond, des plantes et des animaux. Et c'est ça qui m'a conduit à abandonner, au fond, certaines des macro-catégories que j'utilisais pour penser le monde, parce que je les avais amenés avec moi, comme l'idée d'une séparation entre nature et société, dans la mesure où les Atchouars considéraient la plupart des non-humains comme des partenaires sociaux, précisément, on l'a dit tout à l'heure, et avec lesquels ils communiquaient. Je dis un mot sur l'autre forme de communication, qui sont des chants magiques qui sont chantés mentalement et qui sont adressés à l'âme, à l'esprit, à l'intériorité.
Comme des mantras répétitifs ?
Alors non, ce sont des petits poèmes. C'est très poétique parce que c'est assez allusif. Ce sont des scénettes dans lesquelles le chanteur ou la chanteuse met en scène précisément une interaction avec des plantes ou des animaux. Et encore une fois, de façon allusive et poétique. Et c'est une façon pour le chanteur d'agir sur les êtres auxquels il s'adresse, parce qu'on peut aussi chanter cela pour influer sur des humains, en agissant directement sur leur âme, c'est-à-dire en influant par ses chants sur leur comportement, de façon à ce qu'ils se comportent selon les attentes du chanteur ou de la chanteuse.
Cette expérience, c'est ce qui frappe Philippe Descola, vous la racontez souvent, vous en avez fait un livre, Les Lances du Crépuscule, en deuxième, Par de la nature et culture, avec cette idée effectivement que la nature, ça n'existe pas, que c'est une abstraction philosophique que nous autres, les modernes, avons mise en avant. Mais ce qui frappe, c'est que vous la racontez comme si vous l'aviez vécu hier.
Oui, sans
doute. Tout est précis dans votre mémoire.
Oui, tout est précis parce que les choses qui vous impressionnent, qui vous frappent,
qui vous transforment,
demeurent dans la mémoire avec une singulière vigueur, aidées aussi par les cahiers de terrain, parce qu'au fond, l'anthropologie, l'ethnographie en tout cas, c'est-à-dire l'observation participante, comme on dit, ça consiste non seulement à observer ce qui se passe et à participer à la vie des gens, mais ça consiste aussi à le noter, parce que la mémoire est très capricieuse.
Et, elle reconstruit aussi la mémoire.
Elle reconstruit, bien sûr, mais tout ça est fondé aussi sur du texte. Donc j'ai, comme tous les anthropologues, un alignement de cahiers de terrain qui consigne toutes les informations que j'ai pu recueillir au fil du temps. Mais c'est vrai que en écrivant sur les Atchouars, comme je continue parfois à le faire, je revis toutes ces expériences et donc elles ont une vigueur et une force qui continue d'être présente à mon esprit. Je pense que c'est le cas de tous les anthropologues, avec des stimulations mémorielles. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai senti une odeur très particulière de bois. C'était précisément, j'étais en Californie, dans le parc de Yosemite, et c'était un bois de séquoia, c'était un bois d'un séquoia abattu, et il avait exactement la même odeur que les bois de ce type de palmier qui sont très utilisés dans la maison Atchouar. Pas besoin d'avoir lu Proust pour savoir que la stimulation olfactive fait affleurer à la mémoire des souvenirs que quelquefois on ignorait qu'on les avait conservés, oui.
Donc les Atchouars et l'Amazonie équatorienne, c'est votre Madeleine, Philippe Descola. Et cette expérience fait de vous un penseur cardinal dans l'évolution de la pensée écologique. Quand vous publiez Par-delà nature et culture, vous mettez un poème en exergue, un poème d'un poète intranquille. Fernando Pessoa, ce poème est signé dans de ses doubles, dans de ses avatars littéraires, Alberto Cairo. On y revient, Philippe Descola, la nature, ça n'existe pas. C'est ça que vous découvrez chez les Atchouars. Je propose à Marie Vimin de nous lire ce poème, son titre, Par un jour excessivement clair.
Par un jour excessivement clair, jour où perçait l'envie d'avoir beaucoup travaillé, afin de ne pas travailler du tout en ce jour, j'ai entrevu, comme une route entre les arbres, ce qui est peut-être le grand secret, le fameux grand mystère dont les faux poètes parlent. J'ai vu qu'il n'y a pas de nature, que nature n'existe pas. Il y a collines, vallées, plaines, il y a arbres, fleurs, herbages, il y a rivières et pierres, mais qu'il n'y a pas un tout dont cela fasse partie, qu'un ensemble réel et véritable est une maladie de nos idées. La nature est partie sans un tout. Voilà peut-être le mystère en question dont il parle. Voilà ce que, sans penser, en passant, j'ai mis ma main au feu que ça devait être la vérité, que tous se mettent en peine de trouver et qu'ils ne trouvent pas, et que moi seule, pour ne pas être allée la chercher, ai trouvé.
Merci à Marie Vimin pour la lecture de ce poème de Fernando Pessoa par un jour excessivement clair. Vous avez mis votre main au feu.
Une maladie de nos idées, c'est une belle expression. Hein. Moi, on m'a doué ça dans nos idées. Je trouvais ça, quand j'ai lu ce poème, un peu vexant, parce que j'ai dit, il a fallu que je passe 3 ans d'Amazonie pour comprendre ça. Alors que,
l'intuition des poètes.
Voilà, l'intuition des poètes lui a rendu ça immédiatement évident. Et lorsque, quelquefois, des gens se surprennent ou se gaussent même du fait que je prétende que la nature n'existe pas, je les renvoie à ce poème de Pessoa en disant que je ne suis pas le seul à le dire, les Atchouars ne sont pas les seuls à le dire, mais des grands poètes peuvent le dire aussi. Il a tout dit d'une certaine façon.
Mais vous en avez fait votre parcours professionnel.
Moi, j'en ai fait. Moi, je l'ai découvert au fil. Je ne l'avais pas lu avant de partir sur le terrain. Il m'a fallu longtemps pour le découvrir, encore une fois. Et surtout pour en tirer un parti anthropologique. C'est-à-dire, si la nature n'existe pas pour tout le monde, elle existe pour nous, mais
pas
pour d'autres. Ce n'est pas universel. Donc, quelles sont les autres façons de concevoir des continuités, les discontinuités entre humains et non-humains qui peuvent exister ailleurs. C'est ce à quoi j'ai consacré ma carrière d'anthropologue.
Mais par quoi on remplace le mot nature ? Parce que le terme vivant est un terme qui émerge, importé par des intellectuels, par les philosophes, Baptiste Morisot, Vinciane Després, que le Club 44 d'ailleurs a invité. Vivant, est-ce un terme plus adéquat ?
Alors, j'ai des réserves sur la substitution, parce que je pense qu'on a tendance finalement, à travers le mot vivant, à hypostasier à nouveau la nature, c'est-à-dire à en faire une réalité substantielle, en transformant un terme en un concept. Donc ça devient une sorte de substitut à la nature, parce que maintenant, beaucoup de gens ont compris, au fond, le message que je transmettais, à savoir que la nature n'existe pas.
Et que vous répétez depuis des années et des années.
Je répète depuis des années, et qu'il faut donc trouver un équivalent qui soit moins lourdement caractéristique du monde moderne. Je ne pense pas que vivant soit complètement adéquat, parce que le monde me paraît plus justifié. Le monde est composé d'une myriade d'êtres, de phénomènes et de relations avec lesquels nous entrons en contact, dont nous discernons certains aspects, dont nous ignorons d'autres et que nous continuerons probablement à ignorer jusqu'à ce que notre espèce disparaisse.
Et vous le craignez, ça ?
Oh, je pense que ce n'est même pas à craindre, c'est inévitable.
La question, c'est quand, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est... Oui, je serais triste que notre espèce disparaisse, bien sûr, mais ce qui me ferait surtout de la peine, c'était que la vie disparaisse, précisément. Parce que c'est quelque chose de tellement exceptionnel pour
le vivant n'est-il pas plus fort que tout ? Il a réussi à émerger il y a 10 millions d'années.
Il a réussi à émerger, oui. Mais pour le moment, notre planète, que l'on sache, est la seule dans laquelle ce phénomène se soit passé. Il est possible qu'il y ait d'autres planètes, mais qui sont tellement loin qu'on ne les connaîtra probablement jamais, dans lesquelles un même phénomène s'est produit. Et c'est quelque chose de tellement extraordinaire que il faut craindre terriblement que toute vie disparaisse. Cela dit, la disparition de l'espèce humaine est inévitable et elle s'est engagée dans son suicide, au fond, avec enthousiasme, avec dans la période moderne, avec ce que j'ai
suicide appelé. Et enthousiasme, ça ne colle pas vraiment. Hein.
Non, parce que c'est... Je ne sais pas. On peut vouloir sa propre disparition en refusant de considérer que cette disparition est inéluctable et en même temps en faisant tout pour qu'elle advienne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Ça veut dire qu'on est dans le déni.
On est dans le déni, absolument. On projette dans un futur plus ou moins indéterminé le moment où il faudra changer. Et ce moment interviendra probablement alors qu'il sera trop tard.
Nous vivons encore aujourd'hui, Philippe Descola, dans un modèle économique, culturel, politique, philosophique qui sépare nature et culture, malgré vos incessants messages, ce qui permet l'exploitation productiviste de la nature. Mais en quoi le modèle des Achuar ou d'autres peuples qui vivent la relation avec les non-humains de manière très différente, en quoi ce modèle peut servir de matrice de réflexion, d'espoir pour l'avenir ?
Il peut servir de tremplin intellectuel, et pas de modèle, bien sûr, parce que chaque situation historique est différente et on ne peut pas transposer la façon, la manière dont les Achuar ont composé leur monde aux exigences de notre propre façon de vivre. Mais des stimulations, parce que tant l'histoire que l'anthropologie nous offre un panorama extrêmement riche de manière précisément de composer des mondes, d'organisations cosmopolitiques, de rapports aux non-humains, qui sont non pas un catalogue dans lequel on peut puiser pour fabriquer quelque chose.
On n'est pas dans un supermarché.
On n'est pas dans un supermarché, mais en même temps, c'est un motif d'espoir, en ce sens que la variété... non pas infinie, mais très grande, des manières de composer des mondes dont les documents que nous possédons nous offrent, est un motif d'espoir pour penser que nous serons capables, effectivement, d'en inventer d'autres.
D'autres avenirs sont possibles.
Oui, c'est ça, que d'autres avenirs sont possibles. Ce qui compte, c'est d'essayer d'échapper à cette pensée terriblement négative et sinistre que le capitalisme nous a dirigé dans une... Et ce que j'appelle le naturalisme, le capitalisme...
Donc cette séparation nature-culture.
Oui, c'est ça. La condition d'émergence du capitalisme, c'est le naturalisme, avec d'autres éléments. Mais que cette course qui est caractéristique de la modernité et ne peut être qu'une répétition, au fond, infinie du présent.
Un éternel présent.
Un éternel présent et qui est bizarrement fondé sur l'idée de progrès aussi. C'est-à-dire que le progrès technique devrait permettre d'échapper aux conséquences de notre voracité, ce qui, à mon sens, est complètement faux.
Et c'est l'inverse qui se produit.
Oui, mais le progrès technique au sens de ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire que la crise climatique, par exemple, le réchauffement climatique ou la dévastation écologique de la planète peuvent être obviées par des solutions techniques.
Or, il faut une transformation individuelle et collective, elle est nécessaire, vous l'avez dit Philippe Descola, le défi climatique nous oblige, nous engage dans des processus de transformation politique, économique. Cette transformation, vous qui êtes anthropologue, donc qui observez un badaud professionnel, vous la voyez où à l'œuvre ?
Alors, je la vois dans deux champs qui me paraissent très, très intéressants et que je connais un peu moins mal que d'autres, qui sont d'une part la façon dont les populations autochtones confrontent l'oppression et la spoliation dont elles sont les victimes à l'heure actuelle, en inventant des formes politiques qui sont à la fois des prolongements de leurs formes politiques traditionnelles et en même temps sont suffisamment efficaces pour faire front vis-à-vis des menaces auxquelles elles sont exposées.
Donc des laboratoires.
Oui, mais c'est un laboratoire, en même temps c'est un laboratoire vivant, si je puis dire. Je vais vous donner un exemple. Lors de la COP21, il y a une population, des envoyés spéciaux d'une population amazonienne, de l'Amazonie équatorienne, qui sont venus demander des droits pour leur territoire. Et ces droits, ils les ont formulés ainsi, ou la justification en quelque sorte de transformer leur territoire en un domaine protégé, avec des relations tout à fait singulières, matérielles et spirituelles, entre humains et non-humains, s'y déployaient.
Donc ce ne sont les liens qui comptent et non pas la propriété du terrain, de la terre.
C'est la relation qui compte et pas la propriété de l'espace et des objets qui s'y trouvent.
Ça, c'est assez nouveau pour nous.
Ça va complètement à l'encontre, bien évidemment, de la façon dont nous concevons le rapport au territoire comme un rapport d'appropriation de ressources. Et ça, c'est une philosophie politique qui peut nous inspirer. Et la deuxième source, ce sont les territoires alternatifs qui se sont développés.
Les zones à défendre, par exemple.
Par exemple, les zones à défendre. Il s'en est développé dans d'autres régions du monde. Je pense, par exemple, à l'inventivité politique des apatistes au Chiapas. Donc, dans des régimes qui sont fondés sur des façons nouvelles d'habiter des lieux, de partager ce que l'on peut obtenir de ces lieux en termes de subsistance, fondée sur la recherche d'égalité entre humains et entre humains et non-humains, et qui sont là aussi des expériences collectives absolument remarquables de vie commune, qui montrent que c'est possible, quelle que soit la vigueur avec laquelle les autorités s'efforcent de les détruire, de les démanteler. C'est le cas particulièrement en France, avec les zones à défendre, et en particulier la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes.
Vous avez d'ailleurs soutenu les zadistes de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, bien sûr, parce qu'il me semble que, précisément, au lieu d'être ce que le pouvoir politique, et en particulier le ministre de l'Intérieur français...
Qui les accuse de terrorisme intellectuel.
Oui, ils accusent de terrorisme. Le terrorisme intellectuel, c'est plutôt des gens dans mon genre qui s'intéressent à ce qu'ils font.
D'ailleurs, vous êtes sur la liste des renseignements oui. Parce que vous avez soutenu les zadistes, voilà, Philippe Descola.
Voilà.
C'est de l'enquêteur enquêté.
Je suis l'enquêteur enquêté, en effet, ce qui est une situation un peu paradoxale. Mais contrairement donc à ce que l'on prétend, à savoir que ce sont des zones de non-droit, des zones dangereuses où se fomentent des actions terroristes, ce que j'ai pu observer moi, que c'est au contraire des zones où s'expérimente une nouvelle façon de vivre en commun, qui est un modèle à suivre et qui ne va pas remplacer, étant donné le degré de complexité de la spécialisation technique du travail que nous connaissons, qui ne va pas remplacer nos sociétés modernes, mais qui peut faire tache d'huile et servir au fond de zone refuge ou de support imaginaire à des transformations. Enfin, c'est un support réel, mais un support réel à une imagination de transformation des sociétés dans lesquelles nous vivons.
Et se projeter dans un autre avenir, peut-être moins désespérant, c'est-à-dire que comme citoyen, comme citoyenne, on devrait exiger que de tels espaces se multiplient, des espaces de liberté pour permettre d'autres relations au milieu de vie, d'autres relations au monde.
Ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Les ZAD sont nés d'appropriations d'espaces qui étaient condamnés à la destruction ou à la stérilisation.
Comme défense.
En défense, oui. Et Notre-Dame-des-Landes, c'était un aéroport pharaonique dont il s'est avéré qu'il était inutile. Un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre, et que j'ai vigoureusement défendu, vise, lui, à empêcher la destruction du vivant par l'accaparement des terres, l'accaparement des biens communs, l'accaparement de l'eau en particulier, par la construction de ces gigantesques réservoirs qu'on appelle des méga-bassines, et qui pompe les nappes phréatiques au profit d'une minorité d'exploitants qui refusent de changer de modèle productif, alors qu'il est bien évident que avec le réchauffement climatique, la culture de certaines espèces d'une part et l'irrigation d'autre part vont devenir des formes de culture qui vont aller à l'encontre de l'intérêt général. Donc ces mouvements de mobilisation, de la même façon que les mouvements de mobilisation des peuples autochtones, inventent des façons d'aller à l'encontre de ce mouvement qui n'a eu de cesse depuis quelques siècles, d'accaparement des biens communs par des minorités, des individus ou des groupes, et qui a abouti à transformer en marchandise une partie du monde dans lequel nous vivons.
Et ces mouvements-là seraient de nature à transformer notre monde, notre société. Le podcast du Club 44, Zone 44, c'est précisément réfléchir à ces transformations. Ces mouvements-là sont de nature à transformer notre avenir.
On peut l'espérer, si de plus en plus de gens prennent conscience du caractère inique, précisément, de l'accaparement des biens communs, qui est quand même quelque chose qui nous concerne tous, enfin qui concerne l'immense majorité des gens qui n'accaparent pas justement des biens communs, de la même façon que l'exploitation des prolétaires a été un moteur important des luttes sociales pendant longtemps, notamment pendant une grande partie du 19e et du 20e siècle. De la même façon, cet accaparement des biens communs, qui est un phénomène qui date du début des enclosures en Angleterre, donc il y a plusieurs siècles, et la lutte contre cet accaparement est le ferment de luttes sociales qui, sans doute, permettrait de déboucher sur des façons différentes de se lier au monde et des façons qui soient moins sinistre et plus joyeuse aussi.
Des mondes à venir au pluriel, le badaud professionnel que vous êtes, Philippe Descola, est-ce qu'il est optimiste ?
Ah, je réponds toujours à cette question, la fameuse remarque de Gramsci, qui a été largement utilisée, mais qui me paraît toujours juste. Je suis optimiste parce que je suis volontaire, mais je suis pessimiste parce que je suis lucide.
Mais vous êtes un citoyen engagé, donc vous croyez au changement et à la transformation.
Je pense effectivement qu'il ne faut pas se laisser emporter par le pessimisme et qu'il faut continuer à lutter. Je l'ai fait, j'étais un militant politique à l'extrême gauche dans ma jeunesse il se trouve que les conditions politiques à cette époque n'étaient pas révolutionnaires, contrairement à ce que nous pensions avec une certaine naïveté.
Vous avez fait partie d'ailleurs de la Ligue marxiste révolutionnaire.
J'étais la Ligue communiste révolutionnaire.
Trotskiste.
Oui, j'étais effectivement un militant trotskiste. Simplement, l'analyse de la situation était mauvaise à l'époque. Je pense que la situation maintenant est un peu différente, précisément, parce que de plus en plus de gens sont animés par la rage contre la destruction du monde, qui continue à être entretenue par un système économique et politique inique. Et donc, ça, c'est une situation susceptible de produire des transformations profondes. Et on le voit d'ailleurs par le fait qu'une grande partie de la jeunesse, et ça, c'est un mouvement qui est plein d'espoir pour moi, refuse ce monde-là et se mobilise dans des actions de désobéissance civile d'une certaine ampleur pour lutter contre la dévastation de notre monde.
Et la colère peut être un moteur pour l'action. Merci infiniment, Philippe Descola, de vous être prêté à ce jeu du podcast et à cette réflexion sur votre transformation après votre séjour chez les Atchouars et les transformations à venir dans ce monde. Merci.
Merci de m'avoir accueilli.
Le 9 mai, dans le cadre de Big Bounce, Philippe Descola a donné une conférence au Club 44 intitulée « Ethnographie des mondes à venir, comment penser de nouvelles cosmopolitiques ?» Vous pouvez écouter cette conférence en libre accès sur notre site internet club-44.ch, rubrique médiathèque.